Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le dessinateur causé est l'invité du réveil culturel à l'occasion d'une exposition de ses dessins et planches à la galerie Barbier. C'est à Paris, dans le 9e arrondissement. Le Grand Prix Angoulême 2017 est considéré comme le maître du blanc, tellement ses dessins de ces montagnes en neige ont marqué des générations de lecteurs et d'auteurs de bandes dessinées. L'exposition, qui a lieu jusqu'au 3 octobre, donne à voir les autres facettes de ce grand dessinateur.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Causé, ravi de vous retrouver.
Bonjour Toufik.
Alors cette exposition a un nom à la Galerie Barbier. Même poursuivi, le papillon jamais ne semble pressé.
Vous voyez que j'aime la brièveté. Oui, c'est un haïku.
De Garoku.
Garoku, l'auteur japonais, je ne sais plus s'il est du XVIIe siècle ou du XVIIIe. En fait, c'est un dialogue, c'est une citation que fait un de mes personnages dans l'une des histoires de cet album. Mon personnage est un indécrottable séducteur et il a rendu visite à son père sur son lit d'hôpital et il rencontre une infirmière qui a un papillon sur l'épaule et il lui dit « Même poursuivi, le papillon jamais ne semble pressé ».
Chacun l'interprète à sa manière, c'est le principe du haïku.
C'est le principe du haïku, il n'y a pas d'explication, c'est éventuellement destiné à créer une surprise, mais il n'y a pas d'explication.
C'est dans quelle aventure ?
C'est dans « Zec raconte des histoires ».
Alors justement, ce que vous proposez dans cette exposition, l'exposition de vos dessins, de vos planches surtout, c'est de reprendre quelques-unes de vos aventures, et plutôt une période qui va des années du milieu des années 80 au milieu des années 90, avec le voyage en Italie entre autres, et de donner à voir les planches en noir et blanc, c'est-à-dire avant le passage à la couleur.
Oui, et Dieu sait si j'aime la couleur. D'ailleurs, j'apprécie les panneaux ocre qui nous entourent dans ce studio. Belle couleur, l'ocre, qu'on voit pas beaucoup ici en Occident. Mais oui, j'adore la couleur, mais il faut quand même, pour raconter une histoire, elle est un plaisir, qui est un supplément, mais on peut retirer la couleur et voir le vrai travail du dessinateur en noir et blanc.
Quand vous dites la couleur, c'est vous-même qui faites les couleurs, Causé.
Ouais, j'y tiens, j'adore faire les couleurs. En fait, je suis un coloriste, mais ça paye pas. On peut pas vivre en faisant des couleurs. Donc, je dessine aussi et j'écris des scénarios.
Et quand vous dites « je fais moi-même les couleurs », vous n'utilisez jamais l'informatique.
Non.
Alors que ça pourrait vous faire gagner du temps. Vous préférez passer par, ouais. par la peinture, les crayons ?
Ouais, tout à fait. La bonne vieille gouache, les pinceaux. J'ai essayé. J'ai pensé que j'étais un vieux has-been et qu'il fallait que je me mette au goût du jour. J'ai fait, accompagné, soutenu par un graphiste informaticien, j'ai fait une page de couleurs juste pour me prouver à moi-même que j'en étais capable avec l'ordinateur. Mais j'ai eu aucun plaisir. Je trouvais abominable ces tablettes graphiques en verre. Et donc, je suis revenu à la bonne vieille gouache, au pinceau, à trois poils. Et c'est un grand plaisir. Le glou-glou du pinceau dans l'eau, c'est plus joli que le clic-clic-clic-clic-clic toute la journée.
Causé, on peut trouver quelques aquarelles, quelques esquisses, quelques travaux préparatoires pour vos bandes dessinées exposées à la galerie Barbier, en même temps que les planches en noir et blanc de quelques-unes de vos bandes dessinées. Mais le fait d'arriver à la galerie Barbier, c'est aussi une manière de passer à un autre stade. C'est-à-dire, vous êtes... Vous, l'auteur de bande dessinée, devenu un dessinateur qu'on expose, ouais. Avec des planches qui se vendent à des prix, assez considérables.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Qu'est-ce que ça ?
Mais alors, d'abord, je suis pas le seul. La plupart des auteurs maintenant, c'est une évolution de la bande dessinée. Il y a d'autres galeries. J'ai déjà exposé dans d'autres galeries à Paris et ailleurs. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. Vous avez raison. Alors, parfois, les gens s'étonnent des prix assez élevés. C'est vrai. Bon, il faut quand même rappeler qu'une planche d'Hergé, c'est un demi-million ou plus, hein. Alors, je suis très, très, très nettement en dessous. Mais ça peut paraître cher par rapport à quelqu'un qui vend des aquarelles ou des huiles. Je pense que, pour expliquer ça, le lecteur de bande dessinée a été marqué dans sa jeunesse ou adulte par sa lecture. Et quand il achète une planche de bande dessinée, il n'achète pas que le dessin. C'est pas qu'un dessin, c'est un contenu d'une histoire, c'est un personnage qu'il a aimé. Et voilà comment j'explique les prix généralement assez hauts chez J'ai tous les auteurs chez moi-même.
Vous êtes considéré comme le maître du blanc, de toutes les nuances du blanc. Alors, d'une part, parce que vous venez de Suisse, il faut le dire. Et puis, bien sûr, il y a eu Jonathan, il y a eu ces montagnes enneigées, aussi bien chez vous en Suisse qu'au Tibet, que vous avez représenté, que vous avez dessiné. Beaucoup de jeunes dessinateurs se réfèrent à vous, maintenant causer pour parler de la nuance dans le blanc. Comment vous, comment vous entendez ce genre de remarques?
Mais j'entends simplement que je suis un grand paresseux, et quand on travaille sur du papier blanc, il n'y a rien de tel qu'une histoire de neige, le décor est déjà fait, il n'y a plus qu'à placer les personnages. Un peu plus sérieusement, je trouve que suggérer est essentiel, en tout cas en bande dessinée, c'est une façon de raconter. Et ben voilà, le papier non imprimé dans une page de bande dessinée représente parfaitement la neige. Donc c'est, avec ce papier vierge, je suggère la neige. Pareil pour le noir, d'ailleurs.
C'est parce que vous êtes entouré de montagnes enneigées. Ensuite, vous habitez où?
J'habite dans une carte postale.
Suisse.
Suisse, ah oui, bien sûr. À 1200 mètres d'altitude, au pied d'un glacier. Et je m'y trouve bien. Mais pourquoi pas? Ça me nourrit visuellement et aussi pour les idées. Ça m'apaise, ça me tranquillise. Je me sens bien, mais dans la nature d'une manière générale.
Je voudrais vous faire écouter une archive de 1968 et c'est le grand peintre Pierre Soulages, le maître du noir, qui parle, lui, des nuances du noir. Mais en réalité, quand il parle du noir, il parle du noir et blanc.
L'opposition noir et blanc est le plus extrême contraste. C'est une manière de créer la lumière. La lumière, j'entends bien, non pas cette lumière qui se pose sur les objets dans le monde dans lequel on vit, mais cette lumière qui a l'air d'émaner d'un tableau. Et c'est avec le noir et le blanc que l'on obtient le maximum de lumière. Quand on pose un noir sur un blanc, le blanc se met à changer. Il devient plus ou moins gris ou plus ou moins lumineux. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'emploi de cette couleur.
C'était Pierre Soulages qui répondait aux questions d'Andréas Labarthe en mai 1968 dans l'émission Cinéaste de notre temps. Cosé, comment vous réagissez?
Complètement. C'est ce qui est merveilleux, c'est la suggestion. Pour que le blanc soit le plus lumineux possible, il suffit de l'encercler de noir. Et à ce moment-là, ce blanc devient presque aveuglant. Il n'y a pas d'exception dans tous les sujets. Tout ce qu'on perçoit, c'est par comparaison à autre chose. Donc le blanc à côté du noir, va paraître encore plus blanc. Et l'inverse est valable aussi. Le noir, avec du blanc à côté, va sembler le noir le plus sombre. C'est par pure comparaison qu'on perçoit tout.
C'est pour ça que vous avez tenu à ce qu'on voit ces planches de vos aventures que nous avons lues dans la collection Air Libre de Dupuis en couleur, en noir et blanc, parce que c'est ce qui est exposé, et jusqu'au 3 octobre à la galerie Barbier-Causé. C'est ces planches-là, notamment du voyage en Italie.
Oui.
Pour vous, le noir et blanc, c'est l'épure. On peut tout raconter avec le noir et blanc?
Oui, bien sûr. Mais oui. Autant j'utilise la page blanche pour exprimer la neige, comme exemple. Le noir également. J'aime bien suggérer un personnage avec une veste noire, par exemple. Sur un fond noir, je ne vais dessiner que son visage et ses mains. Et je prétends, peut-être que je peux me tromper, que le lecteur imagine spontanément, il fait pas un travail intellectuel, spontanément, il peut pas ne pas voir l'endroit où se trouverait la limite du personnage, son épaule, son bras. Dans mon cas, on est quand même dans une bande dessinée, et j'ai besoin de dessiner plein de détails, donc c'est quand même relativement détaillé. Mais j'essaye toujours de supprimer tout ce qui n'est pas indispensable.
Cette exposition nous aide aussi à nous poser des questions sur votre manière de travailler, Cosé, entre le texte, les images, les dessins, la recherche des traits pour les personnages, comment reconstituer un décor, vous travaillez comment?
Je dessine pas, je n'improvise pas au dessin, donc je commence par constituer une histoire, elle peut être détaillée ou non, mais il faut que je sache à peu près où je vais aller, et ensuite vient la phase du dessin, et ensuite les couleurs. Alors, j'ai oublié de mentionner aussi la documentation, c'est-à-dire que j'essaye de bien connaître mes sujets, non pas pour être fidèle et pédagogique du tout, c'est pas mon but, mais pour me donner plus de liberté dans l'imagination parce que je connais le sujet. Donc, c'est souvent des voyages.
Et là, en l'occurrence, l'Italie et les États-Unis.
Ah, et beaucoup l'Himalaya, principalement, mais aussi, comme vous dites, oui. Et ensuite, Oui, effectivement, le découpage, pour moi, c'est la partie essentielle de la bande dessinée. C'est ce qui fait une bande dessinée, ce qui fait aussi qu'elle réussit ou non, avant la qualité du dessin même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le découpage? C'est choisir. J'ai une scène à raconter en images. D'abord, combien d'images? Elle peut être racontée en une image ou en 15. Donc, c'est un choix à faire. Pourquoi je vais le faire en 3 images? Il faut que je trouve une raison qui me satisfasse. Ça me semble la quantité idéale. Et ensuite, quelle image? Donc, en principe, je vais éviter de répéter le même genre d'image. Donc, pour une image...
Varier les séquences, ouais.
Exactement. Alors, pour une image, ça va être un gros plan sur un personnage de très près. Pas gratuitement, parce que ce qu'il dit demande qu'on s'approche de lui. Et puis, l'image suivante, ça peut être un panoramique d'un un énorme paysage où le personnage est devenu un point. Donc, c'est... toujours au service de l'histoire. Quel est le cadrage choisi? Quelle est l'image qui va raconter le mieux ce que je vais raconter?
Vous avez une limite quand même, c'est le nombre de pages.
Oui. Oui, mais ça se discute, parce que si on arrive à trop de pages, on peut faire 2 albums, ce sera le cas de ce recueil, il y aura un deuxième recueil.
Oui, quand vous dites un recueil, c'est parce que effectivement, oui. Cette exposition a édité ce beau livre, donc reprenant les planches exposées et les dessins aussi, hein, quelques aquarelles, quelques dessins préparatoires, et donc reprend quand même 5 bandes dessinées déjà parues en couleur.
C'est oui.
Et qu'on retrouve dans cet album qui est tout à la fois catalogue d'exposition, mais aussi un recueil de vos albums en noir et blanc.
Oui. Oui, c'est un recueil de 5 albums.
Et vous allez continuer à faire ça avec tous vos albums,
c'est-à-dire... Non, non, mais ça, c'est, en fait, c'est l'initiative du galeriste Jean-Baptiste Barbier qui m'a proposé ça et l'idée m'a bien plu. Non, je vais pas en faire un procédé systématique. Il m'est aussi arrivé de faire un album original en noir et blanc. J'en ai fait qu'un parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore la couleur. Pour moi, c'est une nourriture, c'est quelque chose de vraiment sensuel, d'indispensable.
Même si on vous ramène toujours à ce blanc de...
Oui, oui, mais c'est une couleur. Mais le blanc est une couleur.
Mais le blanc
c'est
la couleur.
Plus belle des couleurs pour moi.
Ouais.
Mais oui, oui.
Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù.
Volare, oh, 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 cantare, oh, oh, oh,
nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Les planches de 5 bandes dessinées de Cosé exposées à la galerie Barbier, dans leur version noir et blanc, c'est-à-dire avant le passage de la couleur. Il s'agit de Joyeux Noël Mai, c'est en 95, Orchidéa en 90, et bien sûr, les 2 albums Voyage en Italie en 1988, d'où la chanson Cosé, bien sûr. Alors, aujourd'hui, Cosé, vous travaillez où? Vous continuez à travailler dans votre atelier, loin de tout, et proche de la nature?
Toujours, ouais, ouais. Et j'apprécie. J'apprécie un peu plus chaque jour. Mais tout de même, grâce à la documentation, je fais des voyages de repérage, c'est une bonne excuse, évidemment. Et donc, je bouge un petit peu, je quitte un peu mes Alpes.
Même depuis cette pandémie, même depuis le mois de mars, même si ça n'a pas dû changer beaucoup pour vous, hein, puisque vous êtes isolé, presque tout seul.
Oui, mais la plupart des auteurs sont confinés chez eux pendant toute leur vie professionnelle. Mais là, alors, j'ai pas fait de voyage récemment en 2020, mais oui, en 2019, je suis retourné pour la 7e fois au Tibet. Bon, faut dire que c'est un grand pays, hein, c'est je crois 3 fois la France en surface. Et puis il y a des régions très différentes les unes des autres, c'est un peu comme l'Europe finalement.
Qu'est-ce qui vous plaît?
Mais alors au départ, adolescent, je lisais des bouquins de philosophie, notamment bouddhisme tibétain. Et puis, je sais pas, on ne sait pas pourquoi on est attiré par tel élément.
C'est pas pour, c'est pas à partir de Tintin au Tibet.
Si. Ça a été un des éléments. Tintin au Tibet, Alexandra David Neil, bien sûr, ses récits de voyage, le goût de la montagne, la philosophie. Et voilà, bah, j'ai eu envie de parler du Tibet. Et comme il y avait très très peu de bouquins, je veux dire très peu d'iconographie, photos rares. Après 2 albums, j'avais fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver en librairie ou en bibliothèque. Donc je suis parti moi-même faire un premier voyage au Ladakh, en l'occurrence, qui est un ancien royaume tibétain, aujourd'hui en Inde, ce qui fait qu'il a été, il n'est pas occupé, comme c'est le cas du Tibet. Et voilà, ça a commencé les voyages.
Voyage en homme libre et intéressé.
Oui.
Qu'est-ce que ça donne quand on est obligé de dessiner Mickey, c'est-à-dire qui n'est pas votre personnage, et quel patrimoine c'est Mickey? Est-ce que vous changez radicalement de façon de travailler, puisque vous avez réalisé 2 beaux Mickey très très poétiques, où on reconnaît votre patte, et pourtant, je suppose qu'il fallait répondre à un cahier des charges très défini pour reprendre un personnage comme Mickey?
Oui,
c'est alors, chez Glénat, bien sûr, hein, cette collection. Voilà. Ouais.
Alors, c'était pas une obligation, c'était un souhait. Enfin, on m'a proposé. Jacques Glénat m'a proposé ça. Il avait négocié avec Disney. C'était possible de faire Mickey sans être employé par Disney. Donc, j'ai tout de suite dit oui parce que c'était un rêve, vraiment un rêve d'enfant. Et je crois que tous les auteurs qui ont participé à cette collection, en faisant chacun leur Mickey, on répondrait de la même façon. C'était pour la plupart des auteurs, un rêve de dessiner Mickey. Et moi, j'ai cherché personnellement à me fondre. J'ai pas voulu accaparer Mickey pour montrer mon Mickey à moi, ce qui est aussi une démarche respectable. Je voulais le contraire, je voulais me fondre dans le style Disney, comme si j'avais été engagé dans les années 60 ou 50 à Los Angeles. Et quand j'ai montré ça à mes collègues, confrères, ils ont dit, bon, ils ont rigolé, ils ont dit, on voit tout de suite que c'est toi, comme vous le dites. Mais mon but, c'était quand même de...
D'être au service de...
Complètement.
Et pourtant, cette nostalgie dans vos aventures de Mickey, elle est de notre époque.
Mickey, c'est le 20e, c'est une icône du 20e siècle. Il faut pas oublier de préciser, d'annoncer, parce que c'est relativement nouveau, que Mickey maintenant fait partie de la collection permanente du MoMA à New York. Alors que le monde de la culture, pendant des années, a regardé ça avec un sourire poli. Et maintenant, il fait partie, le premier dessin animé de Mickey fait partie de la collection permanente du MoMA. Donc, on a quand même fait un pas énorme en admettant que la bande dessinée fait partie de la culture et des arts du XXe siècle.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dessiner, causer? Les gens, leur expression, la nature et sa faune? Mais votre plaisir le plus intense, c'est...
Mon plaisir de dessiner, il est le plus intense lorsque j'ai écrit une scène qui me plaît vraiment. Donc je suis pas un dessinateur compulsif ou ces gens qui ont besoin de dessiner. Si j'ai pas d'idée, je vois pas l'intérêt de dessiner. Je suis un vrai auteur de bande dessinée, je suis pas un dessinateur. Et
donc l'histoire d'abord.
Ouais. L'histoire c'est trop grand, mais si dans cette histoire il y a des scènes qui me plaisent, alors là j'adore dessiner. Et qu'est-ce qui
fait la nature, les gens, les visages, les mouvements, ouais.
N'importe quoi. Parce qu'il y a un élément, par exemple, dans Orchidea, j'aime bien prendre les personnages un peu à contresens. Il y a un personnage qui est un homme de passé 80 ans, que ses enfants, qui eux-mêmes ont 40 ans, viennent fêter son anniversaire. Il a disparu de son home de résidence pour personnes âgées. Il a fait une fugue. Et donc, voilà, ça me ravit. Et donc, j'ai envie de dessiner ce bonhomme parce que je le trouve intéressant.
Comment êtes-vous arrivé jusqu'au trait de ce personnage de papier, de bande dessinée?
Alors, effectivement, quand j'ai un personnage en tête, que je le ressens, je tourne autour, je fais plein de croquis. Et parfois, pour sortir un peu, parce qu'à force de dessiner, on a des tics de dessin, enfin des stéréotypes. Donc, je m'inspire autant que possible de la réalité. Je cherche à penser à quelqu'un qui pourrait incarner, un peu comme un directeur de casting cherche l'acteur pour ce rôle. Eh bien, je cherche le dessin pour ce rôle. Et en l'occurrence, ce vieux personnage...
Il avait un modèle ?
J'avais un peu un modèle, mais après, je m'autorise de toute liberté. Je veux pas être un portraitiste. Et j'ai pensé à John Huston, le réalisateur de cinéma. Je trouvais qu'il avait le physique pour jouer ce vieux bonhomme qui fait une fugue, un peu révolté et tout. Et donc, j'ai commencé par faire des portraits de John Huston d'après photo, jusqu'à ce que j'ai l'impression de le maîtriser, c'est un grand mot, mais enfin de le connaître un peu, et que je m'autorise éventuellement à... Non pas à le déformer, mais enfin à l'interpréter dans le sens qui me convenait le mieux. Parce que c'est ça, mon but, c'est pas de faire un portrait de John Huston. Je pense que personne ne l'a reconnu, même. Mais c'est de nourrir mon personnage avec ses éléments réels.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Une centaine d'œuvres originales tirées du voyage en Italie, d'Orchidea et de Joyeux Noël, mais plus quelques travaux préparatoires, quelques aquarelles, sont exposées, de mon invité causé ce matin, sont exposées à Paris, à la Galerie Barbier, jusqu'au 3 octobre. Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin, causé.
Merci beaucoup.
Corinne Amard à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation et Claire Levasseur à la prise de son. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture et à podcaster le réveil culturel. À demain.